Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Pour le plaisir de la comparaison, je vous raconte les grandes grèves de 1995. Elles ont duré 15 jours. Il s'agissait déjà d'en finir avec les régimes spéciaux de retraite de la SNCF et de la RATP. Et à la fin, le gouvernement a dû capituler, renoncer à sa réforme. Une histoire que j'ai écrite avec les archives d'Europe 1. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous replante le décor, au cas où. Novembre 1995. Jacques Chirac est président de la République depuis 6 mois. Et d'entrée, il a nommé à Matignon le meilleur d'entre nous, comme il le dit lui-même, Alain Juppé. Juppé a 50 ans. À l'époque, on utilise encore le franc. Mais l'euro est sur les rails, et pour entrer dans l'euro, on a promis, à Maastricht, de réduire notre déficit budgétaire à 3% maximum dans 4 ans, c'est-à-dire en 1999. Mort de rire, je sais. Mais bon, ils viennent d'arriver au pouvoir. Ils ont promis de le faire. En avant! Le mercredi 15 novembre 1995, Alain Juppé, d'un pas volontaire, monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Il a un plan pour réduire le fameux trou de la Sécu. On ne rentrera pas dans la monnaie unique avec un système de sécurité sociale aussi déficitaire. Et donc on y va.
La parole est à Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement ne se contentera pas d'un nouveau replâtrage de la sécurité sociale. Il veut une réforme faite pour durer. Il ne s'agit pas simplement de boucher un trou, il s'agit de faire en sorte que les Français soient bien soignés.
Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans.
Alors, que nous a-t-il mitonné? Pour boucher le trou de la branche maladie, Juppé vient d'inventer une nouvelle taxe sur les salaires, la contribution à la réduction de la dette sociale, la CRDS. Mais la grosse affaire concerne la branche retraite. D'après ce qu'on sait, au début, il a hésité, il l'a rajouté au tout dernier moment. 6 mois après l'élection, il s'est dit « ça va passer ». Il veut réformer les régimes spéciaux de retraite. Les agents de la RATP et de la SNCF devront cotiser 40 ans, comme les autres. Ça passe ou ça casse? Pour zapper le débat parlementaire, qui risque d'être chaud avec la gauche, Chirac et Juppé ont choisi la méthode bulldozer. Ça ne sera pas une loi qui fera son petit aller-retour entre l'Assemblée et le Sénat, les commissions, les amendements et tutti quanti. Juppé va engager la responsabilité de son gouvernement. Et après, il procédera par ordonnance. Politiquement, c'est absolument sans risque, puisque la droite tient les 2/3 des députés. À gauche, les communistes hurlent au démantèlement de la Sécu. Normal. Alors que les socialistes, honnêtement, sont mollassons dans la critique. Et du côté des syndicats, alors, le gouvernement a d'entrée un allié. Une alliée, en l'occurrence. Nicole Notin, la patronne de la CFDT.
Aujourd'hui, à l'écoute de la déclaration du Premier ministre, un engagement, des responsabilités, des décisions sont prises pour que véritablement des réformes de fond soient engagées.
Chez Force Ouvrière, ça n'est pas le fait que les cheminots doivent cotiser 40 ans qui met Marc Blondel dans tous ses états. C'est un autre point de la réforme dont je ne vous ai pas encore parlé. Le plan Juppé prévoit que le budget de la sécurité sociale sera désormais établi par le Parlement. Alors que depuis la fin de la guerre, il est acquis que la chose est négociée entre les syndicats et le patronat. Dans la bouche de Blondel, ça donne ça.
Et j'ai assisté, moi, à la plus grande opération de, comment je vais appeler ça, de rapt que je connaisse dans l'histoire de la République. En décidant que le Parlement maintenant allait donner les orientations de la protection sociale, il rafle 2 milliards 200 millions.
Mais le plus remonté de tous, c'est Louis Vianney, le patron de la CGT.
En guise de plan de sauvetage, c'est un plan de saccage. Depuis 30 ans, je crois qu'aucun gouvernement n'était allé aussi loin dans l'agression contre notre système de protection sociale. Aucune branche, aucun secteur n'est épargné. Maladie, vieillesse, famille, ce dispositif n'appelle qu'un seul jugement. Ça, c'est inacceptable. Et qu'une seule réponse, c'est la riposte la plus vigoureuse possible. Faire du 28 novembre une très très grande journée de lutte.
Le lendemain de l'annonce de son plan, Alain Juppé déclare au journal Sud-Ouest: si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y survivra pas. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je ne crois pas à cette hypothèse. Je suis persuadé que les Français ont bien compris la nécessité de l'effort. Ça serait peut-être passé si, dans la foulée, Juppé n'avait pas mis un deuxième fer au feu. Là où Juppé fait une grosse boulette, c'est qu'il lance en même temps une deuxième réforme. 2 jours après son discours devant l'Assemblée, la secrétaire d'État au transport Anne-Marie Idrac annonce au syndicat une réorganisation de la SNCF, qui perd chaque année 12 milliards de francs. Et donc, on augmente le prix des billets, plus 6%, et on ferme les lignes non rentables. Bernard Thibault, le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, fait un rapide calcul. Il s'agit de fermer, à moyen terme, un quart du réseau ferroviaire français. Les effectifs, bien sûr, seront revus à la baisse en proportion. Mais quelle idée a eu Juppé de lancer en même temps une réforme de la Sécu, une réforme des retraites et une réforme de la SNCF? Une première grève a lieu le vendredi 24 novembre 1995, dans la fonction publique et dans les transports. À la manœuvre, la CGT. Dans toute la France, presque tous les trains restent au dépôt. Et à Paris, la moitié des lignes de métro sont fermées. Et les autres tournent au ralenti. Les Parisiens découvrent la joie du vélo.
Le seul moyen de circuler pour vous aujourd'hui?
Bah ouais, j'habite en banlieue, qu'est-ce que je fais? 93, Bondy. Et en plus, je suis pas arrivé, je vais à Montparnasse. Parce que mon patron, il payait double, autrement j'y allais pas. Je restais chez moi.
Les chiffres à l'époque valent ce qu'ils valent. Mais on parle de 100 000 manifestants à Paris, 50 000 à Marseille et 15 000 à Bordeaux. À Paris, Nicole Notat de la CFDT ose faire une apparition dans le cortège, rappelant qu'elle soutient le plan sur la Sécu, mais pas la réforme sur le régime des retraites. Pour vous dire la vérité, elle se fait un petit peu secouer les plumes. Il faut l'évacuer par la petite porte. Mais pour la CGT, en revanche, la journée a été un succès. Et du coup, Bernard Thibault, le leader des cheminots CGT, fait une proposition à Louis Vianney, le patron de son syndicat.
Bon, dis-moi, Louis, ce que je te propose, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud, ok? Les cheminots poursuivent la grève, on continue. On fait voter les gars en Assemblée Générale là-dessus. Et puis après, on voit.
Gare après gare, dépôt après dépôt, à main levée, à l'unanimité, les assemblées générales décident de poursuivre la grève.
Qui est pour la reconduction de la grève? Mes camarades, il faut continuer comme on l'a fait depuis le début.
Le lundi matin 27 novembre, les trains ne redémarrent pas. Bernard Thibault de la CGT à la main.
Les assemblées générales du personnel ont conclu, face à la situation et au blocage gouvernemental, que la meilleure voie pour continuer d'essayer de se faire entendre, c'est malheureusement le recours à la grève.
Et jusqu'où irez-vous donc?
Je pense que pour l'instant, les cheminots souhaitent aller jusqu'à ce qu'ils soient entendus par les pouvoirs publics et la direction d'entreprise.
Le lendemain, nouvelle manifestation dans toute la France. mais cette fois à l'appel de Force ouvrière. Marc Blondel a mitonné un bon coup. Il est en tête du cortège parisien avec son écharpe rouge. Et qui apparaît ? Louis Vianney, le patron de la CGT. Clique la Kodak devant les photographes. Les frères ennemis de FO et de la CGT unissent leurs forces. Juppé aura au moins réussi ça. Deux jours plus tard, Juppé sent que le vent tourne. Il donne une conférence de presse, il a perdu son sourire de pionnier. Mais il maintient ses réformes.
Ce plan est juste. Il répartit les efforts de manière équitable et il ne touche pas les 5 millions de Français les plus modestes. L'heure des vraies réformes a sonné pour la France.
Il ne touchera pas une virgule de son texte. Il parie sur l'impopularité de la grève. Et le lendemain, pas de train, pas de métro, et la Poste, EDF-GDF, France Télécom entrent dans la valse, et les enseignants aussi, et même les hôpitaux annoncent des grèves ponctuelles. La France est paralysée. Le 1er décembre, les cheminots entament leur 8e jour de grève. Pour décourager les non-grévistes, la CGT a installé des piquets de grève devant les dépôts. Les trains, quoi qu'il en soit, ne peuvent pas sortir.
On a le moral, ici. On a le moral.
Allez, accompagné.
Ah, tata.
Bonjour.
Bonjour. Par solidarité, voilà 200 balles. Ensuite, il y en a une qui m'a rapporté des vivres.
La soupe. Alors, j'ai tout dans le coffre.
Et rebelote, 100 balles.
J'ai les cartes, mon petit.
Des piquets de grève à l'ancienne, avec brasero, barbecue, thermos de café et des airs de front populaire. Et quand passent les non-grévistes, ils se font copieusement siffler.
Hey « Eh les gars, là les jupettes !»
La reconduction de la grève se décide à main levée, et gare à celui qui ne lève pas la main. Au même moment, les syndicats sont reçus au ministère des Transports, par le ministre en personne, Bernard Ponce, vieux costard du gaullisme et fidèle grognard de Jacques Chirac. D'entrée, le leader des cheminots CGT, Bernard Thibault, fixe ses limites.
Bien, monsieur le ministre. D'abord, il y a un point sur lequel on refuse absolument de négocier. C'est la retraite des cheminots. C'est un point fermé, monsieur le ministre. Absolument fermé. Et par ailleurs, nous souhaitons remettre à plat le plan de réforme de la SNCF.
Bernard Ponce l'écoute, poliment. Et puis, au revoir. Le gouvernement ne lâchera rien. Il compte toujours sur le pourrissement de la grève, sur ce moment où, à force de durer, elle va devenir impopulaire. Sauf que c'est exactement l'inverse qui va se passer. Le jour même sort un sondage de l'Institut CSA. 62% des Français soutiennent la grève. Et 65% ne font pas confiance au gouvernement pour résoudre la crise. Et sur le terrain, il y a tous les jours de plus en plus de monde dans les manifestations. À Paris, tous les transports sont bloqués. Il n'y a plus de métro du tout, ni de RER. Et du coup, les trottoirs sont bondés comme un samedi de solde. Les Parisiens marchent.
1h15 le matin, 1h15 le soir.
Et alors, c'est la galère.
J'ai mal aux chevilles. Hein, ça marche pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrête la grève.
Bonjour madame, vous venez d'où ?
De Sceaux, en stop. Et je vais porte de Clignancourt, donc avec ma pancarte. Ils prennent assez facilement.
Et on se met à faire du stop avec des pancartes pour indiquer sa destination. Opéra, Nation, Massy Palaiso. Et dans les entreprises, des tableaux se remplissent de petites annonces de covoiturage. Entre collègues, entre amis, on s'héberge le soir, pour un soir ou deux. Et les Français se consolent sur un point. Au moins pendant cette grève, on se parle, on s'entraide. À un moment, le gouvernement réquisitionne des bateaux-mouches. Et il mobilise aussi des bus privés. Et comme les trains de marchandises ne circulent plus, et que les conditions de circulation sont effroyables, eh bien dans les magasins, certains étals sont vides.
pour ne rien arranger, la météo se met de la partie. Le 5 décembre, un anticyclone scandinave pousse vers la France une vague de froid. Elle vient tout droit de Sibérie et le thermomètre tombe au-dessous de zéro. Et il se met à neiger. Et il y a quand même 50 000 personnes à la manif du 5 décembre à Paris.
Il faisait froid aujourd'hui à Paris, quelques flocons sont tombés sur les grands boulevards, mais cela n'a pas refroidi l'ardeur des manifestants. Depuis 15 jours, on commence à s'habituer au slogan réclamant le retrait du plan Juppé sur la sécu, mais aujourd'hui, les manifestants sont allés un peu plus loin.
Juppé, démission ! Juppé, démission !
En région, il y a plus de monde que lors des précédentes manifs. 50 000 à Bordeaux, 30 000 à Toulouse, 20 000 à Caen, 10 000 à Rouen. Du jamais vu, semble-t-il, depuis 68. Le soir même, à 20h, Alain Juppé fait une allocution télévisée depuis son bureau de Matignon. Il le redit, le gouvernement ne cédera pas.
Il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir d'urgence. Je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire.
Le Premier ministre fait une concession, une seule, sur la réforme des retraites. Il charge une commission de rédiger un livre blanc. C'est Clémenceau qui disait, quand on veut enterrer une décision, on crée une commission. Ça veut dire, ça, que le gouvernement entr'ouvre la porte à une négociation. Mais le lendemain, dans les manifs... Le Conseil des ministres du 6 décembre est expédié en une heure chrono. Et en pleine crise, figurez-vous que le sujet de la grève n'est pas du tout abordé. Du coup, à la fin, le porte-parole du gouvernement, Alain Lamassoure, est bien embêté. Qu'est-ce qu'il va dire aux journalistes ? Alors il va voir Chirac. Monsieur le Président, qu'est-ce que je dis sur la crise sociale ? Eh bien, on n'en a pas parlé. Tu ne dis rien. Monsieur le Président, avec ce qui se passe dans la rue, je ne peux pas dire qu'on s'est réunis, qu'on n'en a pas parlé, enfin. Eh bien, tu n'as qu'à dire que je soutiens le gouvernement. Comme la corde soutient le pendu. C'est une blague, bien sûr. Et finalement, Chirac tranche. À la Chirac. Bon, écoute, hein, tu te démerdes. Chirac, en vérité, est en train de lâcher Juppé. Et sur Canal+, les guignols s'en régalent.
Négociation. Vas-y.
Non.
Si, allez, négociation. Répète.
Négociation.
Encore.
Négociation.
Ah, bah putain. 18 jours pour ça.
Et pendant ce temps, dans les dépôts, la grève est reconduite. Jour après jour. Et maintenant, dans les manifs, en queue de cortège, il y a des casseurs. Ça ne peut plus durer. Alors le 10 décembre, Juppé recule.
Il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir d'urgence. Je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire.
Traduction, Juppé renonce à réformer les régimes spéciaux de retraite et il suspend la réforme de la SNCF. La seule chose qu'il maintient, c'est la réforme de la branche maladie de la Sécu, la CRDS, le médecin référent et les médicaments génériques. À ce moment-là, la CGT peut considérer qu'elle a gagné. Bernard Thibault et Louis Vianney pourraient appeler à la reprise du travail. Mais non, hein, tant qu'à faire, galvanisé par le succès, ils veulent pousser le bras de fer jusqu'au bout, forcer Juppé à renoncer aussi à son plan sur la sécu.
Le lendemain de sa reculade, Alain Juppé fait venir Vianney et Thibault à l'hôtel Matignon.
« Bien, messieurs, nous avons renoncé à la referme des retraites et de la SNCF. Hein ? Alors maintenant, il faut stopper la grève des transports. Enfin, de toute façon, je ne céderai pas sur la sécu. On tiendra le temps qu'il faudra. »
Le lendemain, c'est le 19e jour de grève. Une nouvelle manifestation rassemble 2 millions de personnes à Paris et en province. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Juppé au tout début, à Sud-Ouest ? Si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement ne survivra pas. Eh ben voilà, 2 millions, on y est. À cette limite près que Vianney et Thibault ont compris le signal. Ils ont compris que Chirac ne reculera pas sur la réforme de la Sécu. Et puis, il faut savoir arrêter une grève, n'est-ce pas ? Le moment est venu. Bernard Thibault va voir Bernard Ponce, le ministre des Transports. Il veut des garanties et il arrête. Thibault dira que c'est lui qui a dicté la lettre au ministre. Le projet de contrat de plan est gelé et remis à plat. Point. Un nouveau projet doit être élaboré. Point. Nous veillerons à ce que vous soyez associés à son élaboration. Point. Nous vous garantissons qu'aucun élément relatif au statut des personnels ne sera remis en cause. Point. Nous vous prions de croire, etc., monsieur le secrétaire général, à notre considération distinguée. Signé Bernard Ponce. Le matin du 14 décembre, les assemblées générales de cheminots votent la reprise du travail. Les premiers trains sortent des entrepôts. Et le lendemain, les conducteurs de la RATP font de même.
Nous vous informons que le trafic reprend sur la ligne 1 entre Esplanade de la Défense et Château de Vincennes.
Ben oui, je suis contente, j'ai l'impression de ressentir le métro tout neuf, tout propre, et on peut rentrer comme ça.
C'est une émotion intense, c'est tout à fait par hasard que je le prends, et ben, je suis content, et puis ils ont fini de nous emmerder comme ça, donc c'est bien.
La réforme de la sécurité sociale va passer, mais sans le volet sur les régimes spéciaux de retraite. 2 ans plus tard, en 1997, la France est qualifiée pour la future monnaie unique. Mais le 1er juin, la majorité perd les élections. Jospin s'installe à Matignon pour 5 ans.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.